mon tête, tu me dis rien.
Exemple.
Vous aimez une jolie fille, moi.
Des objets de méditation extraordinaires qui s'appellent les manches de pierre de rêve.
C'est la religion, c'est vous pouvez aussi refouler ça, ça c'est un autre problème. D'ailleurs, c'est pas...
Bonjour, on est ensemble, voix contre oreille, jusqu'à 9h30.
Bloc poli, des pierres, des marbres.
Qui est le Blaze? Le Blaze est un faux et pour connaître le vrai, cette heure et demie d'entretien n'y suffirait pas. Trop d'infos qui se bousculent, sa vie est un vrai roman dont l'écriture, je crois, reste à faire. Et dans cette roue des visages, il ne pourra nous en présenter que certains aujourd'hui. Alors le Blaze a rencontré beaucoup de gens, a gagné beaucoup d'argent avec le futile et puis il s'est rendu utile et on verra tout au cours de cet entretien comment. Il a beaucoup voyagé, vu, écouté. Et pour continuer avec des questions, aujourd'hui il produit du pourquoi, il interroge grâce aux nouvelles technologies, ceux qui se connectent à l'autre bout de la Terre, on le commente du Vatican, ou d'Israël, d'Amérique du Sud ou du Canada, on commente même les commentaires, on partage avec lui les poèmes, les photos. Alors si l'on saisit d'ailleurs le Blaze sur un bon moteur de recherche, on le cite seulement 8 fois moins que Mère Teresa. C'est un peu d'injustice, on lui en parlera tout à l'heure. À quoi tient son succès? En tous les cas, il dit ne rien savoir, ne pas pouvoir répondre. Alors prévenu même de l'existence de cette émission, une parodie en a été faite avant l'heure. Par qui? On ne sait pas.
Monsieur Le Blaze, bonjour. Vous êtes un peu en retard, décoiffé, mal rasé, les yeux légèrement hagards, mais vous êtes là.
On avait dit pas de photo, non?
Oh pardon, heureuse de vous accueillir tout de même sur Radio Aligre. Nous sommes là pour parler de leblaze.net ce matin, un blog pas comme les autres. Alors je suis allée voir votre blog et je dois dire que j'ai eu du mal à m'y retrouver. Je ne suis pas une grande adepte de l'internet, voyez-vous. Je préfère la cueillette des cerises en été, les champignons en automne. Mais puisque votre blog a l'air encore plus incompréhensible que les autres pour moi, je me suis dit pourquoi pas ne pas plonger. Alors commençons par un début. Que veut dire le Blaze?
D'abord bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie de m'avoir invité. Ben, le Blaze en argot veut dire le nom. Et comme le nom est déjà une info, je me suis dit que ça serait pas mal de mettre le Blaze est un fou. Donc le Blaze est un faux.
Ah, vous voulez dire un faux ou un faux?
C'est cela, oui. Chez le hasard a fait que le Blaze a choisi la plateforme via Vlogga, qui est gérée, comme vous le savez peut-être, par des gens formidables, et qui est une interface qui autorise une infinité de fils de discussion suivis au sein d'une même discussion principale. C'est aussi une interface unique, dans le sens où on peut mettre des photos, des vidéos, des animations, parfois des poèmes, des pensées, voire même des caresses. On a mélangé...
Le Blaze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct. Merci d'être venu nous rejoindre si tôt. On a compris à travers cette interview très joliment faite et qui a été, peut-être dont le son techniquement n'est pas excellent parce qu'il a été vraiment téléchargé sur Internet.
Absolument.
On a compris ce que voulait dire le Blaze. En tous les cas, on n'a pas très bien compris pourquoi est-ce que c'est un faux.
C'est un faux parce que c'est un pseudonyme, bien entendu. Le nom est une information. On est dans un monde de linguistique, de sémantique. Et ça m'est venu comme ça, en fait, un petit peu rapidement, et c'est resté.
Le Blaze, en tous les cas, est un phénomène de société. Je le disais tout à l'heure dans l'intro que j'ai présenté. Le Blaze, si on tape le Blaze sur un moteur de recherche, vous n'apparaîtrez le Blaze que 8 fois moins, vous ne serez que 8 fois moins cité que Mère Teresa.
C'est injuste. Je veux dire que, après tout, Mère Teresa, à côté de Le Blaze, qu'est-ce que c'est?
Surtout, Mère Teresa est une vieille dame, et
plus,
Le Blaze, on le connaît depuis un an et demi ou deux ans.
Oui, c'est la preuve aussi que la culture Google, la culture des moteurs de recherche, va introduire beaucoup de faux historiques. L'histoire est pleine de faux, mais en voilà un autre. Parce que, le top des recherches, c'est Hitler, 25 millions. Staline ne fait que 50 fois plus que le Blaze, et Mère Teresa 7-8 fois, c'est pas terrible.
Alors tout a commencé, le Blaze, par un test. Vous avez testé une plateforme de blog, et vous avez trouvé une qui était un peu particulière. Elle parlait de développement. Et ça, ça vous a intéressé. On verra pourquoi. Cette plateforme a pour nom Via Bloga. En quoi, qu'est-ce qu'elle avait de plus intéressant que les autres?
Eh bien, la première chose, c'est que la plupart des blogs sont construits sur une structure très simple. Vous avez le taulier du blog qui publie un article et là-dessus, des gens répondent. Mais ils répondent d'une façon... Enfin, leurs commentaires apparaissent chronologiquement dans un système vertical, comme un ascenseur. Et finalement, ça veut dire que le taulier est sur un piédestal, c'est un magistère, et les commentateurs, commentatrices sont là, un peu comme des oisillons. Chez Via Bloga, on a différentes possibilités. Surtout un discours latéral. Ça veut dire qu'un peu comme chez les Amérindiens, chacun prend la parole. Non seulement on commente l'article du taulier, mais on commente les commentaires. En plus de ça, chaque visiteur, chaque commentateur a à sa disposition un éditeur de texte, un éditeur d'image. Il peut donc produire des photos, faire de la mise en page, donc enjoliver son commentaire. Il peut mettre des sons et faire, comme on a entendu tout à l'heure, carrément une parodie. Parce qu'en plus de ça, on a entendu le son, la parodie donc de notre début d'émission, mais il y a un film qui va avec.
Alors, on va peut-être donner aux auditeurs déjà qui nous écoutent la façon dont on peut accéder à votre site. Comme ça, peut-être en écoutant Aligre FM, ils peuvent en même temps regarder votre site. On fait quoi? WHTTP?
Non, même pas. On fait HTTP, deux points, double slash, et leblase.net.
Alors, leblase?
LEBLASE.
Alors, est-ce que, à force de répondre aux commentaires, des commentaires, répondre, etc., alors, bien sûr, ça a une structure qui n'est pas pyramidale, et ça, on en reparlera, mais est-ce que, du coup, c'est pas confus? Est-ce qu'on s'y perd pas?
Bah, c'est-à-dire que ce blog n'aurait pas dû avoir lieu pour plein de raisons. Il a eu lieu, il a pris très vite, et c'est devenu un foutoir considérable, puisque chaque billet provoque plusieurs centaines de commentaires. Et pour s'y retrouver, c'est très difficile de savoir qui répond à quoi et tout ça. Donc, à chaque fois, les gens de Via Bloga, qui sont une équipe très très petite, mais menée par trois personnes, Stéphane Gigandet, Jean-Luc Berlanzi et Delphine, je n'ai jamais su son nom de famille, ont trouvé des moyens techniques assez formidables pour ajuster pour répondre aux besoins. Donc, ils ont créé des petites flèches qui renvoient aux commentaires auxquels ils répondent, des petits machins comme ça. On peut répondre à ceci ou à répondre à ça. On sait très bien où on est. Au début, c'est un peu déconcertant, mais des petits symboles apparaissent permettant à chaque nouvel inscrit de voir ce qu'il y a de nouveau depuis sa dernière visite. Ça permet plus ou moins un certain ordre. Mais on aime bien l'entropie, on aime bien le chaos. C'est générateur de plein de choses et de hasard.
Plus de 500 commentaires par billet qui viennent du monde entier. Alors, on voulait même au Vatican, au Maroc, en Israël, en Espagne, aux États-Unis.
Oui.
Explication.
Je ne sais pas. Depuis le début, il y a des gens qui me suivent ce blog depuis le Mexique, par exemple, depuis la Tanzanie. On a des moyens assez précis pour repérer, pour faire la différence entre les robots chercheurs et les vrais visiteurs. Et donc, je classe les robots ailleurs, je ne vais pas en parler. Mais au Japon, alors je me dis, est-ce que chaque ambassade française a un le blasmaniaque? J'en sais rien.
En tous les cas, ce sont des rencontres virtuelles entre des personnes qui m'ont l'air étonnantes. Est-ce qu'on peut faire un petit portrait, je ne sais pas, robot, de ceux qui viennent et qui chatent avec vous
Oui, on pourrait en faire un, mais c'est un robot qui se déglinguerait tout de suite parce qu'il est fait de personnalités vraiment très différentes. Vous avez une grande proportion des gens qui viennent sur le blaze et qui s'expriment très très bien, non pas pour français la langue maternelle. Vous avez des écrivains, vous avez des ingénieurs, vous avez des députés, vous avez un philosophe, un peu de tout, mais c'est surtout des gens. Le niveau de culture n'importe pas. Ce qui compte, et ce qui est démontré tout le temps d'ailleurs.
Oui, alors qu'est-ce qui compte? Parce que le niveau de culture n'importe pas, on sent quand même un certain...
Il y en a un. Mais il est le résultat justement de la qualité principale des commentateurs tristes, c'est la curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit. Ils veulent savoir. La plupart de mes billets ont peu d'intérêt, en fait. Il y a, je sais pas, il y a peut-être 10, 12 commentaires en moyenne qui répondent à mon billet, ils s'en fichent, et ils passent vite à autre chose. Et parce que la conversation dérive, certains des commentaires placés par les commentateurs tristes sont carrément des billets de très très haute qualité. Donc on répond à ça aussi. Finalement, mes billets ne servent qu'à épurer un peu le sac, parce que quand au bout de 300, 400 commentaires, ça fait lourd. Donc, j'écris un nouveau billet. Mais ils n'en tiennent pas compte. Hier soir, j'en écris pas beaucoup. Hier soir, j'en ai écrit un, sachant très bien que, il y a de fortes chances pour que ce qui intéresse le plus les visiteurs tristes sera ce qu'on va se dire là. Donc, mon billet va passer à dame, comme d'habitude. Et puis, c'est aussi bien. Je ne dirige rien. Enfin, je lance la parole, c'est tout.
Alors, pour ces auditeurs, effectivement, qui vous connaissent à travers ce site, après l'avoir expliqué aux auditeurs qui, eux, ne vous connaissent pas,
ouais.
Ben, on essaiera pour eux spécialement de savoir un peu qui était le Blaze avant le Blaze. Hein. C'est peut-être cette partie-là qui va les intéresser. Mais on va continuer un petit peu quand même sur le site, dans la mesure où il y en a d'autres qui sont en train de vous découvrir et peut-être en train d'aller sur votre site pour la première fois maintenant. Alors, vous dites le Blaze, le blog, blog, c'est la vie. C'est la vie, alors que moi, je me dis, au contraire, il y a tellement de virtuels. Là, en plus, il y a des pseudos, donc le pseudo éloigne de sa propre identité, et pourtant...
Je n'en suis pas sûr.
Ah, alors vous allez nous expliquer ça.
Oui. Vous naissez avec le nom que vos parents vous ont donné. Vos parents s'émerveillent de quelque chose qui apparaît, mais ils ne savent pas vraiment ce qui apparaît. Ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. Et petit à petit, il va falloir que vous fassiez non seulement votre propre... bâtissiez votre identité, mais... qu'elle soit conforme à votre nom, ou tout au moins que le nom soit conforme, ce qui est préférable, à votre identité, à votre personnalité. Dans plusieurs tribus, dans plusieurs sociétés, on a un nom. On a un nom qu'on se prend quand on est adulte, un nouveau nom. Le pseudo est un peu ça. Bon, au départ, le pseudo, c'est pour cacher le patronyme, on est bien d'accord. Mais finalement... petit à petit, on y adhère.
Donc, le pseudo nous ressemblerait peut-être presque plus que notre vrai nom, et le pseudo nous aiderait en tous les cas peut-être à nous dissimuler derrière quelque chose et d'être plus libre, de s'exprimer plus librement, parce que dans votre site, il y a une très grande liberté de parole.
Oui, il y a une très grande liberté de parole. J'ai été obligé, vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal, une seule fois de la censurer, mais la loi m'y obligeait, en fait.
Alors, oui. Le blog le Blaze est un blog dont on peut parler peut-être difficilement, il va falloir y aller.
Oui.
En tous les cas, on peut parler de tout. Et
oui.
On parle de quoi?
Alors, au départ, on parle plus ou moins du sens. C'est-à-dire, j'écris là sur la justice, récemment c'était là-dessus, sur l'individu, sur... il m'est arrivé de parler de la rage que devaient éprouver les jeunes 15 jours avant qu'il y ait les fameux événements de novembre l'année dernière, de situations économiques. Au départ, j'ai parlé de microéconomie, le microcrédit. Et je suis très content qu'Younous soit devenu le prix Nobel de la paix cette année pour ça. Parce que je sais, pour mon expérience, je sais que... c'est une solution vraiment importante pour le monde. Mais là-dessus, on va parler d'autres choses. Certains vont amener des poèmes, comme le disait la parodie, et des poèmes qui sont des poèmes très technologiques, puisqu'ils mêlent le son, des images animées, du texte, des très très belles choses, vraiment. Il y a des théories, il y a aussi des détournements de l'électronique. Par exemple, une des commentatrices, là, directement, publie des dessins faits à la main. Elle les scanne et elle les montre au lieu de montrer une photo. Moi, j'avais l'envie de carrément calligraphier, scanner ma calligraphie et faire ça plutôt que de taper sur le clavier. On fait ce qu'on veut là-dessus. Souvent, on se prend à des jeux intellectuels, mais des jeux relationnels, en fait, qui sont rigolos, quoi. Parce que c'est... on parle de choses sérieuses, mais pas sur un ton sérieux.
C'est qu'il y a beaucoup d'humour.
Oui, c'est vraiment important.
Il y a beaucoup d'humour et c'est, en fait, j'ai l'impression, une œuvre d'art en train de se créer.
Oui.
Et d'ailleurs, vous aviez cette idée magnifique, vous allez nous la dire, et j'espère qu'elle va se réaliser. animer les rues de Paris avec ce blog.
Oui, c'était une idée qu'on avait eue avec Marina, qui est une des commentatrices et qui est un écrivain. C'était de faire du blogging en direct, en projetant en faisant deux projections. Sur une des projections, on avait le commentaire qui apparaît avec ma réponse, et sur une autre, on avait un défilement de tous les commentaires. Mais je ne voulais pas que ça se passe dans une galerie d'art moderne, comme ça m'a été proposé. Je voulais que ça se passe dans un quartier populaire, sur des murs publics. Sans plus, et que les gens passent devant, qu'ils le regardent ou qu'ils ne le regardent pas, n'avait aucune importance. C'était simplement pour ramener le virtuel dans le réel.
Aligre FM 93.1.
J'ai choisi cette musique parce que je suis un grand auditeur de musique classique, de jazz. Et le matin, en général, j'aime bien mettre soit ce qu'on appelle, avec la sirène, soit ce qu'on appelle les moutons, c'est-à-dire des concerts de hautbois, de clarinette, soit des chorales, juste pour le matin, comme ça. C'est pas speed, c'est plutôt aérien. Et puis j'aime beaucoup, c'est tout.
Florence, voix contre oreille, sur Aligre FM.
Le Blas, je me rends compte que les gens qui vous connaissent par l'écriture ne vous connaissent pas, ne connaissent pas votre voix, ils la découvrent ce matin.
Oui. Oui, en fait, par principe, au début, je voulais absolument pas rencontrer de commentateur ni commentatrice du blog, même s'il y a eu une demande, ni même correspondre par mail. Et puis, petit à petit, je l'ai fait, mais pas les rencontrer, mais j'ai eu des échanges de mails. Et j'en ai rencontré finalement un parce qu'il a arrêté de bloguer. Un autre parce qu'il se trouve que c'était mon voisin en Dordogne. Alors c'était quand même un hasard étonnant. Et puis un autre qui est un personnage remarquable qui fait partie de l'équipe de Via Bloga, qui s'appelle JLB, et qui commente très souvent dans l'émission. Et bon, sinon, ça s'arrête là.
Même si la structure de votre blog, on le voyait tout à l'heure, parce qu'on peut répondre aux commentaires, hein, faire le commentaire du commentaire du commentaire, même si ce blog n'est pas pyramidal, même si on peut répondre comme ça, même si c'est très différent, est-ce que vous n'êtes pas, et c'est la question que posaient les deux personnes qui ont fait une parodie de l'émission, ils se demandaient si vous n'étiez pas un peu gourou, un peu prêcheur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je détesterais ça. Je détesterais être pris justement pour quelqu'un qui sait. J'aime beaucoup les questions, j'aime beaucoup le questionnement. Je m'intéresse en général beaucoup plus aux questions qu'aux réponses. Et dans la vie, hein, en général, je ne parle pas seulement du blog, bien sûr. Et d'ailleurs, ces personnes n'étaient pas deux, mais trois. Et le script a été écrit par deux commentatrices et mis en scène et mis au point, comme vous avez vu techniquement, par La Scène, qui est donc le poète électronique, et qui est un personnage assez connu dans la blogosphère marocaine, qu'on appelle la blogosphère marocaine. Une blogosphère très active, très intéressante, sans doute une des plus vivaces qui soit autour de la Méditerranée. Et non, j'aimerais pas du tout, non seulement j'aimerais pas être pris pour celui qui sait et qui parle à ses ouailles, mais je ne voudrais pas que se forme un club. Même si évidemment il y a des affinités, certains se connaissent depuis longtemps et tout ça, je voudrais que ça soit ouvert à un maximum de gens. Parce que entre les gens qui commentent et les gens qui visitent, vous avez pu voir vous-même en direct hier avec les statistiques le nombre de visites constantes qu'il y a sur ce site, il y a une énorme différence. Donc les gens viennent, beaucoup de gens viennent et ne participent pas. On les appelle les yeux muets. C'est JLB, je crois, qui a inventé ce terme. Alors un yeux muet, c'est quelqu'un qui y suit et qui n'ose parfois pas intervenir en se disant « Est-ce que je vais pas être à la hauteur ?» Tout le monde est à la hauteur à partir du moment où on est soi-même.
Alors, en même temps, vous n'êtes pas gourou, mais on se serait quand même, j'ai appris ça aussi, on se serait quand même battu pour vous. On dit que vous êtes un séducteur et vous avez évoqué, justement, ou ils ont évoqué, cette stratégie du lézard. C'est quoi la stratégie du lézard?
Celui qui a évoqué la stratégie du lézard est un charmeur de serpents. Et je ne sais, je crois qu'il faisait surtout référence à une photographie que j'ai publiée. Je publie beaucoup de photos dans le blog. Oui, elles sont toutes les miennes. Comme ça, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Et sur cette photo, on voyait un petit lézard qui montait sur l'escarpin, un très joli escarpin d'une femme. Alors, c'est peut-être ça, c'est lézarder sur le corps d'une femme, c'est adhérer sensuellement à quelqu'un. C'est aussi ne pas trop se prendre la tête. Puisque le lézard, bon, c'est ce que c'est, lézarder, c'est un peu traîner, mais c'est quand même être là, c'est présent, c'est initiatique. Je ne sais pas. Je suis pas l'auteur de ça.
En tous les cas, pas mal de transferts amoureux, à tel point que vous avez été obligé de faire intervenir la sirène.
Non, c'est-à-dire que, enfin, vous avez raison et pas tout à fait. J'ai simplement voulu mettre les choses au point et dire que j'étais pas seul, qu'il existe dans ma vie quelqu'un, et donc c'est la sirène. J'ai publié quelques photos d'elle. Elle ne participe pas aux conversations et c'est devenu, comme le dit elle, c'est un des pseudonymes d'une commentatrice. C'est la sirène et c'est une icône qui apparaît, disparaît. Mais bon, on sait que le Blaze est un homme et qu'il a une compagne.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Kali Ijag. C'est le groupe Tzigan Yougoslave, ça veut dire le feu noir, qui chantait Shilapsu. C'est une musique qui me touche particulièrement, parce que à l'intérieur de mon parcours, j'ai traversé des guerres civiles. Et les gitans sont des gens qui ont accompagné toujours ma vie, et qui là-bas, en Yougoslavie, sont persécutés, comme... dans différents pays, bien sûr, mais en Europe de l'Est, ça arrive souvent. Et malgré cette persécution, ils gardent cette joie de vivre, cette volonté de continuer à exister. Et le feu noir, c'est... Il y a le feu, notre feu à nous est noir, mais c'est quand même notre feu. Et il y a une espèce de force vitale extraordinaire, de générosité... chez les gitans qui m'a toujours plu, ils m'ont jamais traité comme un gajo donc c'est important.
Qu'est-ce que vous aimez chez les gitans? Parce que c'est un peuple fier, c'est un peuple nomade, c'est un peuple libre.
Oui, alors ils ont leurs codes, hein. Ils ont des codes très très précis quand même entre eux, mais jamais...
Violent?
Il y a de la violence, oui. Il y a de la violence, mais il y a de la violence chez l'homme. Les femmes gitanes sont absolument extraordinaires. Ça a commencé en fait par des femmes, mon intérêt pour les gitans, parce que j'ai connu des gitanes et j'ai été introduit chez la grand-mère, comme il se doit, pour le mariage. Il y a eu un affrontement, enfin des histoires assez folles, je savais plus où j'étais. Et il y a une espèce de très grande fraternité, une fois qu'on est là, ils laissent des petits signes, je connais certains de ces signes, et ça fait qu'en fait, vous avez toujours un relais. Je connais aussi d'autres sortes, d'autres réseaux. C'est des réseaux. En fait, je suis un homme de réseau, de plein de réseaux, et les gitans sont un réseau. Mais c'est un réseau, c'est un peuple, hein. C'est un peuple itinérant qui vient, on dit, de l'Inde au départ, qu'on retrouve partout. J'en ai trouvé en Amérique du Sud, j'en ai trouvé en Afrique, j'en ai rencontré vraiment un peu partout. Mais en Yougoslavie, il y avait la guerre civile, et ils en prenaient plein la tronche, comme... Voilà, et en fait, l'histoire de Le Blaz vient un petit peu, la création du blog vient d'un parcours.
Par contre, on va en parler tout à l'heure. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur les gitans. Okay. Quand vous écoutez cette musique, quelles images viennent à Le Blaz?
Ben écoutez, quand je l'ai écouté pour préparer l'émission, pour la choisir, il se trouve que j'ai pleuré. Beaucoup d'images me viennent, beaucoup de souffrance, beaucoup d'ostracisme, d'injustice, et ce sont les choses qui me mettent le plus en boule. Je sais combien de beauté il peut y avoir chez eux. Alors évidemment, ils se braquent, puisqu'ils savent qu'ils vont être mal reçus. C'est comme tous les exclus, comme les jeunes de banlieue, tout ça. Au départ, ils s'attendent à être mal perçus. Donc, ils se braquent et ils peuvent balancer un visage fermé ou agressif, mais... Si vous rentrez, vous êtes dans un cocon de chaleur, de partage. Il n'y a pas de propriété. Celui qui gagne de l'argent, il le donne. Il est d'une manière assez étonnante. Vous savez, il y a une devinette chinoise qui est formidable. C'est qu'est-ce qui recouvre la terre et qui n'a pas d'ombre? La route. Or, ce sont des gens de la route. Ils sont sur la terre partout. Il n'y a pas d'ombre. Ils sont juste eux, qu'on ne les embête pas, ils n'embêtent personne.
Et est-ce que ce sont eux qui vous ont appris à lire les lignes de la main à la place?
Non, c'est pas du tout eux, ça m'est venu comme ça, des trucs de spiritisme un peu bizarres me sont arrivés dans la vie, et il se trouve que, ouais, je sais dire des choses étonnantes dans les lignes de la main, mais ça ne... Il paraît que j'ai un don avec les yeux et tout ça, de guérisseur, mais... Je ne veux pas en trop rentrer là-dedans.
Qui était Le Blaz avant Le Blaz? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants.
Florence, voix contre oreille, sur Aligre FM.
Alors, Le Blaz a été comédien, auteur de théâtre, a chanté sur scène, a beaucoup voyagé, a rencontré beaucoup de gens. On en fera une liste pas vraiment exhaustive tout à l'heure. A gagné pas mal d'argent, a été mannequin, et puis expert à l'UNESCO, et puis toujours collectionneur d'art. On essaiera de voir certains de ses réseaux. Pas tous, c'est sûr. Est-ce que tous les blogueurs savent ces choses-là de vous?
Bah, si vous en parlez, ils vont finir par le savoir, oui. Je laisse quelques informations, je distille savamment, comme disent certains en se moquant de moi, je distille quelques informations, bien sûr, au bout d'un moment, parce que ce blog est c'est un théâtre, on s'amuse, mais j'ai quand même un but dans la communication, j'ai envie de dire certaines choses. Les réseaux permettent, par exemple, l'Internet le permet, de relier les gens, bien sûr, on le sait, mais ça veut dire, par exemple, de faire se communiquer des peuples qui sont en guerre. Ça, c'est, je participe à un réseau qui fait ça, qui permet à des gens qui se font en guerre depuis très longtemps de se parler. Ils ont souvent besoin de quelqu'un qui construit un petit tuyau dans lequel ils peuvent rentrer, discuter, tout ça. Ça fait partie des choses. Ou travailler à faire libérer des militaires qui refusent d'obéir à des ordres illégaux, qui refusent de commettre des crimes. Donc ça fait aussi partie de mes occupations de réseau. Il se trouve que dans mon parcours, vous l'avez dit, j'ai gagné pas mal d'argent dans le futile, c'est vrai. Je pouvais pas m'en contenter. Et j'ai toujours investi dans sinon le subversif, du moins dans l'alternatif. Je me suis donc rendu j'ai accompli des missions pour des différents organismes, l'UNESCO et d'autres dont je ne peux pas parler, qui m'ont montré des aspects assez effroyables de la misère du monde. Et dans ma naïveté, je me suis dit, on peut apporter certaines solutions. Donc, j'ai participé à des trucs comme le rachat d'esclaves, mais c'est une mauvaise idée parce que, au Soudan, acheter des esclaves, ça entretient le commerce. Donc c'était pas bien, on a arrêté. Et puis après, j'ai appris à piloter en me disant si je pilotais un petit avion, je pouvais me rendre là où ça se passait, prendre les informations, les documents et les ramener. Mais ça s'est révélé une idée très mauvaise puisque les gouvernements disposent d'avions militaires qui vous tirent dessus quand vous faites. Voilà. Donc après, un concours de circonstances m'a amené à considérer que un moyen de ne pas être exterminé pour un peuple, c'est de faire parler de soi, de dire « j'existe ». Comme j'ai essayé de faire des choses au Rwanda et aussi pour les Noubas, les Noubas dont la population a été diminuée quasiment par 4 en 15 ans. Il fallait faire quelque chose pour... J'ai pensé qu'on devait installer un système pour leur permettre d'exister. Un camp de réfugiés, ce n'est pas comme on croit un endroit où les gens sont protégés et tout va bien, ils sont isolés du mal. Pas du tout. Un camp de réfugiés, c'est un camp où il y a plein d'hommes et de femmes, quasiment sans ordre, et qui sont prisonniers. Ce sont en fait les otages de leur tortureur, si on peut dire, parce que c'est un capital d'argent. Un général détient un camp protège un camp de réfugiés, donc les ONG vont arriver et vont donner un certain budget pour ce camp-là. Disons que vous avez 100 000 réfugiés, on vous donne tant d'argent, donc le général d'à côté va se créer un camp de réfugiés plus important, mais il n'y a pas de réfugiés, ça fait rien, on va brûler les villages, et les gens, on va les regrouper de force dans un autre camp, et on va avoir ainsi de l'argent. Donc, c'est un commerce, c'est de la traite d'êtres humains, comme tant d'autres traites d'êtres humains, et il fallait faire quelque chose. Je me suis dit donc, ok, inventons un système pour que l'Internet au débit puisse rayonner partout.
Ce que vous nous dites, en fait, Le Blaz, c'est que la haute technologie, on la voit en général au service du mal, c'est-à-dire au service de la guerre. On sait que les bombes sont de plus en plus raffinées, etc. Vous nous dites, non, la haute technologie peut être justement au service de la paix.
Oui, absolument. Elle peut être mise à la disposition du faible contre le fort. En préambule, il faudrait que je dise une chose, c'est que les victimes ne sont pas forcément des gens bien. De la même manière que les pauvres ne sont pas forcément des gens bien et les riches des gens mauvais. Les pauvres sont des gens qui voudraient cesser de l'être. Les riches sont des gens qui voudraient continuer de l'être. Les victimes peuvent être des bourreaux qui ont perdu. L'homme est l'homme, hein, c'est comme ça. Mais quand il est faible, quand il n'y a plus de défense, alors il faut l'aider, oui. Il faut essayer de rétablir l'équilibre. La haute technologie peut le faire, et elle le fait souvent. C'est les Wanderers, anglais, qui me l'ont montré en organisant des manifestations qui utilisaient la haute technologie. D'abord les téléphones portables, ensuite des petits relais Internet faits à toute vitesse. Donc on savait où étaient les flics, où étaient les forces de l'ordre, en temps réel. Ça, c'est très bien. Pendant la guerre du Kosovo, j'ai assisté, puisque j'en connaissais, j'ai assisté à la manière dont les Serbes se défendaient. Vous savez que tous les moyens qui ont été mis en œuvre par l'Europe et par l'Amérique pour bombarder à fond la caisse les forces serbes n'ont abouti qu'à la destruction de 12 tanks, malgré les milliers de tonnes de bombes, dont certaines étaient à l'uranium appauvri, malgré la destruction de monuments qui appartenait au patrimoine mondial de l'humanité, qui n'avait rien à voir avec les atrocités que les Serbes auraient pu commettre. Les Serbes, eux, avaient installé des petits sites internet très simples qui disaient, ou carrément un système de mail en disant, ils étaient placés près des bases de départ des avions ou sur le parcours des avions, ils disaient deux oiseaux, telle direction, telle heure. Puis ils se relayaient comme ça. Ce qui fait que les forces serbes savaient que tant d'avions à l'arrivée, ils se dispersaient, ils mettaient des
lois. Vous voulez dire que de simples petits téléphones portables ont déjoué la stratégie américaine?
Oui, l'Internet et les téléphones portables, oui. Absolument, et ça continue à le faire. Hein. De la même manière que Massoud, en Afghanistan, utilisait beaucoup le téléphone satellite, et qu'actuellement, on le voit bien aussi, les Al-Qaïda et compagnie, c'est ce qu'ils font. Hein. En fait, celui qui avait le premier utilisé la technologie moderne, bizarrement, c'était Khomeini. Quand il était en exil en Irak, il pouvait pas publier ses prêches, puisque la radio l'interdisait en Iran, donc il distribuait des cassettes. Et les cassettes, c'était facile. Et la technologie est très bien, mais l'anti-technologie aussi est formidable, parce que vu que les Américains, je prends les Américains comme exemple, hein, ont une surveillance sur à peu près toutes les transmissions ondulaires, la communication militaire est efficace contre eux actuellement, c'est simplement les notes écrites données à un gars qui est sur une moto, et le gars, c'est comme ça que ça se passe.
Les nouvelles technologies, ça, c'est vraiment, vous aimez ça, le blaze, oui. Et on va en parler. Et d'ailleurs, on va parler de plusieurs projets, parce que nouvelles technologies, développement, ça, je dirais, c'est votre créneau.
Oui.
Projet, par exemple, de la fondation GI, qui a carrément redynamisé une petite ethnie du Laos. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que alors, c'est assez stupéfiant ce qu'ils ont réussi à faire.
Ah, oui, ça, c'est une très belle chose. Parallèlement, avant de faire le blaze, en fait, j'ai créé un projet donc pour mettre au point des essais de haut débit Internet dans des régions isolées, régions défavorisées, où la DSL... Pour faire ce test, il fallait des fonds, et donc j'ai fait en France. L'Europe, l'État, la région Aquitaine m'ont aidé, et on a eu beaucoup d'argent, on a fait le truc, ça marche très bien. Et ça m'a mis en contact avec différents projets dans le tiers-monde, dont la Jai Foundation. Alors la Jai Foundation, c'est... La Jai, c'est une vallée dans le nord du Laos. Et un jour, un Américain qui avait été pilote de bombardier pendant la guerre du Vietnam était plein de remords et il a voulu réparer ce qu'il a fait. Il est arrivé sur cette vallée où il a constaté que les jeunes allaient s'en aller parce qu'il n'y avait plus de débouchés pour vivre, parce qu'ils étaient complètement fermés du reste du monde. Et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Et avec des amis ingénieurs, informaticiens, électroniciens, ils ont repéré un hôpital qui était pas trop loin, quand même, à 40 kilomètres, qui avait l'Internet. C'était pas le haut débit, mais ils avaient l'Internet. Donc ils ont monté à travers la jungle un système de poteaux sur lequel des émetteurs, transmetteurs Wi-Fi alimentés par batterie solaire aboutissait au village. Mais le problème, c'est que là-bas, il n'y avait pas l'électricité dans le village. En plus de ça, il parle un langage qui n'est absolument pas pris en compte ni par Linux, ni par rien. Donc il a fallu tout inventer. Ils ont fait des ordinateurs qui utilisent très très peu d'électricité, qui sont alimentés par le courant de la rivière. Quand il n'y a pas assez de courant, il y a un gars qui pédale à côté. Ils ont créé des claviers tout à fait nouveaux qui sont un mélange de symboles traditionnels de la tribu et un mélange de laotien. Et les jeunes se sont donc occupés de ça. C'est eux qui ont pris ça en charge. Ils ont vérifié l'état des cours, parce qu'ils produisaient des légumes au départ. Puis ils se sont mis à faire du café, puis faire du thé, parce qu'ils regardaient sur Internet quelle était la demande qu'ils pouvaient eux-mêmes remplir. Et ils ont créé une marque, la Jai Foundation, qui exporte maintenant du thé et du café dans le monde. Le village marche bien, tous les jeunes restent, puisque c'est eux qui sont responsables de l'économie du village, et ça, c'est un projet qui m'a beaucoup plu.
Donc les nouvelles technologies pour les personnes les plus démunies, vous m'avez dit, c'est génial.
Oui, oui, parce que, prenons l'exemple du pêcheur tanzanien, ou prenons l'exemple du pêcheur malgache, c'est à peu près le même gars. Il pêche dans les mêmes eaux. Une fois qu'il a rempli son bateau de poissons, ou tout au moins une fois qu'il a fini sa journée, il lui faut vendre son poisson. Il va donc, avec son téléphone portable, téléphoner à la bourse, enfin au marché aux poissons d'un pays ou de l'autre, pour savoir quel est le prix le plus élevé. Et comme ça, il le vend là. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, a essayé de faire que le producteur ne soit plus tributaire des acheteurs, vous savez, la fameuse publicité du café où on voit le gars, je ne cite pas la marque, qui arrive et tout le monde dit « Ah, tu es là, monsieur, tiens, voilà mon café, c'est merveilleux, le gars sent le café », et il l'achète au prix qu'il veut parce qu'il n'y a pas de concurrence. Le PNUD a fait un programme qui était différent, c'est que par fax, ils obtenaient le cours des produits, des haricots verts par exemple en Afrique, dans différents pays, et ça permettait aux producteurs de dire « Ah oui, mais je vais le vendre plutôt là que là, puisqu'il y a une petite différence de prix. » Avec l'Internet, ça irait encore plus vite. On leur installe un poste, ils voient les bourses, et du coup, le négociateur est obligé, s'il ne veut pas tuer le produit, de ne pas tuer le producteur. Alors il accepte de marchander.
Le premier article que le Blaz a publié s'occupait, parlait de microcrédit, à une époque d'ailleurs où Younous n'était pas vraiment connu du grand public, n'avait pas reçu son prix Nobel de la paix. Le microcrédit, donc, une chose importante parce que ça peut faire de personnes pauvres des producteurs, puis des consommateurs, et c'est une façon bien sûr de sortir de la misère. Et alors, on a discuté parce qu'on a préparé ensemble cette émission hier, et vous me disiez, il faut absolument que justement toutes ces personnes démunies aujourd'hui rentrent dans le monde marchand.
C'est indispensable. Si vous ne rentrez pas dans le monde marchand, vous n'existez pas. Comment pouvez-vous gagner de l'argent ? Et donc, comment pouvez-vous en dépenser ? Il faut donc rentrer dans ce système. On est dans un monde de... On est dans le monde du négoce. Le simple langage est un négoce. L'économie libidinale de Lyotard, c'était aussi une référence à ça. L'amour est un négoce. On est tout le temps en train de négocier. Vous avez des milliards de gens qui participent au monde marchand. Ils achètent. On est tous très contents d'avoir des t-shirts pas chers, d'avoir des ordinateurs de moins en moins chers parce que finalement ils sont produits partout dans des pays qui au départ n'avaient pas d'économie, qui font ça moins cher. Ok, on profite beaucoup de la globalisation. Mais
certains en profitent.
Certains en profitent et certains n'en profitent pas. L'Inde qu'on encense actuellement a quand même 700 millions de gens qui sont hors du circuit marchand. Alors quand vous êtes hors du circuit marchand, pratiquement, ce qui se passe, je parle de c'est du première main, hein, je suis souvent allé dans les endroits comme ça, vous avez un ghetto avec un seul kiosque marchand. Le gars vous vend la boîte de sardines 10 à 12 fois plus cher que le bourgeois de la ville d'à côté va payer dans un supermarché. C'est tellement cher que vous empruntez. Vous empruntez au même épicier, donc, qui va vous prêter à un taux de 400 à 1000% par jour. Donc, il faut créer autre chose. On sait que les pauvres remboursent. L'idée de Younous et de Prahlad et d'autres, c'est d'inventer un crédit minuscule. Il faut que ce soit un taux d'intérêt plus élevé que celui que les banques accordent en général, parce qu'il faut absolument faire rentrer les banques dans le système. Donc, pour à peu près 25%, vous empruntez 10, 5, 20 dollars pour un mois. Mais avec ces 10, 5 ou 20 dollars, vous avez la possibilité, vous qui n'avez même pas 5 cents par jour, de créer un petit peu d'avance. Avec cette avance, vous investissez. Mais c'est rien. Mais vous investissez un petit peu. Et du coup, vous achetez des choses que vous revendez. Vous commencez à créer ce qu'on appelle la capillarité économique. Une fois que vous avez un tissu d'économie dans une société où ça n'existait pas, le fameux kiosque du départ, il est plus du tout compétitif. Le monopole est brisé. Pareil pour la banque, c'est fini l'usurier à 1000% du coup, avec les mastards qui vous cassent les jambes ou qui estropient les enfants si on ne rembourse pas. Donc, eh ben, ok, on va emprunter 10 dollars. Parce qu'il faut savoir quand même que dans un ghetto, on va pas acheter une boîte de sauce tomate, on va acheter une cuillère de sauce tomate. Demain, c'est déjà très loin. Il faut s'occuper d'aujourd'hui. On gagne de quoi vivre aujourd'hui, c'est tout. Ça va plus loin que ça, en fait. Parce que on peut, du coup, commencer à créer des petites entreprises. Il se trouve que, par exemple, la société qui crée les prothèses de jambes artificielles dues aux mines antipersonnelles, qui crée les meilleures prothèses, qui sont les prothèses les moins chères, en plus de ça, avec une grande flexibilité latérale et longitudinale du pied, c'est une société qui a bénéficié de microcrédits. C'est des gens en Inde, comme ça, qui ont mis ensemble leurs idées, qui ont trouvé quelques centaines de dollars initiales. Alors, pour nous, on dit c'est pas grand-chose. Pour eux, c'était énorme. Avec ça, ils ont mis le village dans le coup. Tout le monde s'y est mis. C'est souvent les femmes qui gèrent ces choses-là. Les hommes ont les idées au départ de production. Et les femmes gèrent tout le truc. On crée une dynamique, redistribue, redélègue. Or, une fois qu'un miséreux est devenu un consommateur, c'est paradoxal, mais c'est comme ça qu'il sort. C'est par le profit qu'il sort de la misère.
En même temps, quand on vous écoute, on se dit, nous, on est dans une société d'hyperconsommation.
Oui.
On a presque l'impression qu'on est en train d'en mourir.
Oui.
Et on peut évidemment pas dire à ceux qui ne bénéficient pas de cette chance que l'on a de beaucoup consommer, enfin, qui est une chance. En même temps, évidemment, on peut pas dire ne faites pas ce que nous faisons depuis des décennies. On n'a pas vraiment de conseils à donner. Mais en même temps, on se dit, si sur la terre entière, il y a ce processus de consommation effrénée qui existe, ça va devenir irrespirable.
Oui. Alors, ça vient d'un des fondamentalismes. Il y a plusieurs fondamentalismes. On a l'intégrisme chrétien, musulman, juif, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a aussi un fondamentalisme laïque, athée. Ça s'appelle le politiquement correct. Donc, les pauvres sont des braves gens qu'il faut aider et à qui il faut donner des trucs. Ça, c'est politiquement correct. Dire que qu'on peut sortir de la misère par le profit, c'est pas bien, c'est pas sympa, ça, c'est pas le discours qu'il faut tenir. Et c'est faux. C'est totalement paternaliste et ça relève de l'esprit colonialiste de dire aux gens, écoutez, nous, c'est vrai, on crève des excès qu'on va faire, mais on n'est pas en train d'arrêter de les faire, ces excès, on continue. Hein. Mais alors, vous n'allez pas vous y mettre parce que c'est pas tenable si vous vous mettez à dépenser et c'est bon. Et en plus, c'est vrai. Par exemple, la Chine qui s'y met, qui pollue comme... Bon, on peut pas tenir son langage. Il faut donc faire autre chose. Il faut répartir autrement. Il faut produire autrement, répartir autrement les choses. Et il faut aussi se dire que peut-être que ces nouveaux arrivants sur le monde marchand, peut-être que ces gens-là vont inventer un autre système parce qu'ils arrivent différemment sur les choses. Ils arrivent en tant qu'enfants là-dedans. Nous, on est arrivés adultes dans le système. Eux, non, ils vont créer quelque chose, ils découvrent quelque chose et rien ne dit qu'ils vont tout de suite passer dans l'excès, dans le gâchis qui sont le gâchis qui est notre lot quotidien.
On le souhaite. Alors, ce qui est intéressant, vous avez souligné, vous n'aimez pas le politiquement correct.
Non.
Au risque d'ailleurs, quand on n'est pas politiquement correct, de mal se faire comprendre.
Ah oui.
Et c'est un peu ce qui vous est arrivé quand vous êtes revenu du Kosovo, parce que vous avez fait une analyse. Quand on n'est pas politiquement correct, il faut pousser très loin son analyse, il faut prendre du temps pour bien se faire comprendre, pour aller jusqu'au bout
dangereux.
De son idée.
Oui.
Et si on ne va pas jusqu'au bout, on est mal compris et on fait des amalgames.
Oui, c'est vrai que c'est très dangereux parce que... Vous parlez de l'histoire du Kosovo. Alors effectivement, j'ai eu le malheur de dire la vérité, c'est-à-dire que les Albanais, les Kosovars n'étaient pas des pauvres victimes innocentes, puisque l'UCK, c'était quand même qui était l'organisation guerrière de libération du Kosovo par opposition à l'organisation de Bugova. C'était quand même des gangsters. Et d'ailleurs, ils l'ont bien révélé très rapidement, une fois que la guerre a été réglée. Beaucoup d'entre eux sont dans la traite des Blanches et dans les choses comme ça. Donc il faut pas tout de suite dire que ceux qui étaient contre les Serbes, parce que les Serbes avaient été méchants et horribles, il n'y a aucun doute, pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, il fallait pas dire que l'ami de mon ennemi est forcément un brave gars. Non. Donc j'ai dit certaines choses et à ma grande surprise, quand je suis retourné en France, eh bien j'avais du courrier de négationnistes, de révisionnistes incroyables. Alors ça n'avait rien à voir. Ce que j'avais dit n'avait rien à voir avec, par exemple, remettre en cause le Likan. C'était du délire. Les gens font des amalgames très très simplistes. On pense actuellement de manière très simpliste. Justement, le politiquement correct fait comme tous les intégrismes, il crée des bornes à votre champ d'investigation intellectuelle et donc à votre territoire de pensée et d'autonomie, d'absorption des choses et de transformation des éléments par votre cerveau, par vous-même, quoi. Donc, avec le politiquement correct, on se dit, oula, si je commence à dire ça, c'est pas bien, je suis pas quelqu'un de bien, il faut pas y aller. Donc, c'est la même chose avec les pauvres. Les pauvres, on leur donne, mais on ne voudrait pas qu'ils deviennent riches, parce que à ce moment-là, c'est plus des pauvres, c'est pas bien, il faudrait pas qu'ils fassent comme nous. Ça introduit, comme dans l'intégrisme religieux, énormément de confusion. Donc, le discours que je suis en train de tenir va sûrement aussi m'attirer parfois des sympathies de gens avec qui je ne voudrais surtout pas me retrouver ni à table ni nulle part, même si j'ai dû les fréquenter parfois justement pour savoir qui ils étaient, ce qu'ils faisaient et contrecarrer leur projet. Il faut essayer de rester ouvert, d'être libre. Bon, le blog, le Blaze, n'est pas un blog politiquement correct. Nous ne sommes pas corrects. Nous essayons de respecter à peu près tout le monde, de ne pas choisir de camp. Et si on n'est pas d'accord, ben on s'engueule sur le blog. D'ailleurs, j'en prends plein la tête sans arrêt de la part des commentateurs tristes, avec humour.
A far calde tale a le nalarpe un panci gargare
si dice più tutti
votate l'adlo a far calde tale a le nalarpe un panci gargare. Lunch, a far calte tale Alle nala tro panche gasare Ota della tro a far calte tane Alle nala tro panche
C'était Techome Metekou, un chanteur éthiopien qui chantait, alors pardon pour la prononciation, hein, qui chantait Mot Adela Dlogne. C'est, on peut trouver ça dans la collection éthiopique parue chez Bouddha Musique et produite par mon ami Falsetto. L'Éthiopie, c'est un pays extraordinaire et qui a très peu de chances de le rester parce que la situation là-bas est folle. Complètement déjanté, surtout dans le sud, où j'ai dû faire une mission pour l'UNESCO pour accorder, pour créer le dossier qui permettrait d'accorder à une tribu quasiment néolithique de bénéficier du patrimoine mondial de l'humanité. Le truc, c'est que pour aller là-bas, c'est aux confins du Kenya et de la Somalie, et c'est une région où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de zone. Et bon, c'était une drôle d'aventure, c'était plein d'expériences très intéressantes, j'ai appris énormément de choses, mais pendant ce voyage, j'ai donc appris aussi ce qu'était la musique éthiopienne, et parce qu'on l'entend tout le temps, et c'est très créateur. Ce qu'on vient d'entendre, par exemple, a été enregistré en 75. Un pays qui était soi-disant éloigné du reste du monde produisait une sorte de « rhythm blues », au moment où l'Amérique crée son soul funk. C'est, bon, on aime ou on n'aime pas, bien sûr, mais...
Le Blaze, un pays d'immense pauvreté, oui. Où la pauvreté vous a touché de plein fouet. Et vous m'avez dit, c'est un pays où j'ai compris que la pauvreté n'avait pas de couleur.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis très sensible à la chromatographie, bien sûr. Les pauvres n'ont pas de couleur. C'est pas que la pauvreté n'a pas de couleur, c'est que les pauvres perdent leur couleur. Un exemple très concret de ça, c'est que on croit que dans un pays où il y a la famine, bon, il y a que la famine. C'est pas vrai. Vous avez donc des marchés avec des légumes, des fruits, de la viande, des fruits, du poisson éventuellement, pas en Éthiopie parce qu'ils aiment pas ça. Et là, vous avez des gens qui subsistent normalement, qui ont des vêtements colorés, qui vont dans le marché. Alors, les légumes, les produits frais ont plein de couleurs. Et la première fois que je suis arrivé dans un endroit comme ça, ça m'a complètement scié, parce que j'ai vu que le sol, à un moment, le sol bougeait. Et le sol, c'était les gens qui crèvent de faim, qui rampent, qui ont donc la couleur de terre battue sur laquelle ils sont. Femmes et enfants, en général, c'est femmes et enfants, parce que les hommes sont morts. Et tout ça se passe alors que des gens se nourrissent. C'est quelque chose d'absolument bouleversant à voir, parce que c'est comme dans les films à effets spéciaux, vous savez, où d'un seul coup le sol prend une autre forme. Et là c'est des êtres humains qui sont c'est vos frères et sœurs, c'est vos mères, c'est vos enfants. Et les gens qui eux peuvent subsister ne sont pas indifférents. Ils donnent ce qu'ils peuvent. Mais on peut pas arrêter la misère individuellement, on peut pas l'arrêter. Alors ils font un peu ce qui passe. C'était terrible, parce que je suis donc allé là-bas, et quand vous êtes le seul blanc, je suis assimilé à un blanc, j'étais dans une voiture blanche de l'UNESCO avec un chauffeur. Les gens vous prennent pour un pasteur et ils vous disent tous les enfants vous disent « father, father, father ». Et ça vous poursuit, c'est quelque chose qui est monstrueux. Vous êtes obligé de vous mettre dans la position du sélectionneur, ceux qui peuvent encore vivre, ceux qui ne peuvent plus vivre. Ça remet en question beaucoup, beaucoup de certitudes, beaucoup de choses que vous connaissiez, et ça provoque une colère terrible aussi contre les nantis que nous sommes. Quand je rentre après ça dans ma région d'Ordogne et que j'entends les paysans se plaindre du problème de la PAC ou de là, j'ai vraiment envie de les entraîner là où il y a cette misère, parce qu'on est responsable de cette misère, on en est responsable, on le sait, par le PAC, par exemple, c'est pas la seule chose, mais par la dette, par la façon dont on exploite complètement, et surtout d'un point de vue banquier et financier, tous ces gens-là qui sont en train de mourir devant vous, avec les oiseaux à côté, qui est prêt à bouffer.
Pays aussi le blaze d'une extrême violence.
Oui.
Violence. Alors vous m'avez dit je suis peureux.
Oui.
C'est étonnant. Vous vous mettez dans des situations difficiles.
Oui. Oui, oui, je suis peureux, oui, oui, mais j'ai aussi peur d'affronter quelqu'un qui a une Kalachnikov braquée sur moi que de rentrer dans un supermarché ici, hein, ça me fait, c'est-à-dire que la peur ne m'empêche pas de faire ce que je veux faire. Donc, c'est vrai, je suis aussi un petit peu inconscient, une fois que j'ai franchi la frontière, parce qu'il y a une espèce de frontière invisible dans le sud de l'Éthiopie, une fois passé Arba Minch, qui veut dire les 40 fontaines, c'est magnifique, c'est très beau, mais alors n'importe quoi peut arriver. Pour les ponts qui permettaient d'y arriver ont avaient été cassés. On a donc dans le 4x4, par exemple, on a traversé la rivière et puis il y a eu un grand choc et c'était un cadavre qui passait comme ça. Tout de suite, vous êtes dans le bain, vous trouvez des trucs. Les gens vous jettent des pierres si vous vous arrêtez pas, parce qu'ils voient le blanc arriver, ils se disent ça va être laide. Et puis vous arrêtez pas, vous allez aider des gens plus loin qui sont encore plus dans le désarroi. Oui, alors parfois aussi, ça provoque des rejets très violents. Et puis vous tombez sur les gangsters, vous tombez sur les écorcheurs locaux, c'est-à-dire des bandes de mecs qui ont parfois très jeunes, qui ont des armes, qui vont d'un village à l'autre, qui enlèvent les filles. Ils en font ce qu'ils en font, ça peut se limiter au viol, ça peut aller plus loin, qui tuent tous ceux qui résistent. Et bon, j'ai vu ça de mes yeux, oui.
Florence, voix contre oreille, sur Aligre FM.
Le blaze, on va encore parler de le blaze avant le blaze. On ne suit pas la chronologie. Alors, on revient peut-être un petit peu plus loin. La richesse de quelqu'un, en fait, c'est aussi la richesse de tous ceux qu'il rencontre.
Oui.
Vous avez rencontré beaucoup de gens.
Oui.
beaucoup de gens totalement hors du commun.
Oui.
Alors, pour ne parler que des très connus, ça pouvait être Warhol ou Lévi-Strauss, Borges, Perec. Alors, tout ça, ça peut surprendre par la quantité et puis aussi par la qualité de tous ces gens. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces univers, Warhol, Perec, et c'est commun, Lévi-Strauss, Basquiat?
C'est très difficile à dire. Je suis assez naïf comme gars et je suis sur la route depuis l'âge de 17 ans. Et sur la route, évidemment, on rencontre d'autres gens. Un jour, j'étais en Australie dans un restaurant et on était plusieurs comme ça. Donc je connaissais à peu près personne. Et je voyais que des jeunes groupies australiennes faisaient signer des papiers à un gars qui était là avec les cheveux longs et la barbe. Et je demande au type à côté de moi, mais alors il est connu et le gars me dit, ouais, il est connu, c'est le batteur des Dire Straits. Je dis, ah bon, hein, c'est le batteur des Dire Straits. Ah, et alors, et vous le connaissez? Il me dit, ouais, moi aussi, je suis musicien. Et c'était George Harrison, le membre des Beatles. Et j'ai souvent des trucs comme ça. Ça me tombe dessus, je fais pas attention. Borges, c'est quand j'étais enfant, je l'ai raconté dans le blog à un moment comment ça m'était arrivé. C'était un hasard, c'était un truc d'enfance. J'ai vu Leris, Burroughs, Brian Gysin. J'ai été un slammer en 81, slammer rappeur.
Slammer à l'heure où il n'y en avait pas beaucoup.
Non, c'est un ami, le fils du peintre Mata qui m'a piégé. C'est un très bon musicien et il aimait mes textes et il m'a dit, tu voudrais pas m'écrire une chanson, tout ça. J'ai dit, bon, ok, je t'écris la chanson, mais j'ai pas envie d'écrire un truc en rime. Je voudrais que ça soit un peu n'importe quoi et délirant. Et donc, j'ai écrit un truc sur la guerre et les ânes. Je sais pas pourquoi. Et puis, il me disait, bon, il faudrait que tu le lises pendant ça. Puis, alors, je l'ai lu, puis je me suis mis à le lire en rythme. Et on a fait de la scène et on s'est retrouvé avec des gens comme ça, Brian Gysin qui était un poète qui avait été viré du surréalisme par André Breton parce que il était homosexuel et qu'André Breton était un psychorigide. Burroughs, j'adorais. C'était un type absolument dingue. Warhol, c'est autre chose. Il se trouve que j'ai fait des films comme acteur aux États-Unis, je suis un très mauvais acteur. Et donc, je l'ai rencontré au Max Kansas City et après à la Factory à New York. Et j'étais très jeune. Et puis, on a fait quelques trucs.
Oui, mais il y a quelque chose qui est encore injuste, hein, quand même, le Blas. C'est-à-dire que vous avez été acteur en Amérique, alors que vous étiez mauvais acteur, vous avez été mannequin, vraiment sans le vouloir, c'est-à-dire que pratiquement du jour au lendemain, on vous a trouvé en première de couverture.
Oui, première de couverture, c'est un peu beaucoup, non, mais enfin, j'ai été...
Pas première de couverture, mais enfin,
je l'ai été très peu de temps, quoi, 15 jours, parce que la photographe qui m'avait choisi comme mannequin... est devenu mon ami et 15 jours après il se trouve qu'elle avait deux boulots à faire le même jour, elle m'a demandé si je pouvais pas en faire un et j'ai dit d'accord et j'ai été publié mais ça a fait boule de neige, j'ai tout de suite été demandé comme photographe de mode. Oui.
Mannequin, photographe de mode, on a l'impression que c'est la vie qui vient à vous.
Oui.
C'est quand même pas mal de chance.
Il faut la provoquer sans doute. D'abord, je dis toujours oui, je peux le faire. Et parce que je suis curieux de savoir ce que ça va être de le faire. Et puis,
il faut quand même qu'on vous le propose. Il y a plein de gens qui seraient curieux de voir ce qu'ils peuvent faire et puis il n'y a rien qui s'ouvre.
Vous savez, qui ne risque rien n'a rien, il faut prendre le risque. Si je me suis retrouvé sur la route à 17 ans, c'est parce que j'ai refusé le destin qui m'était proposé. Et ça a commencé en peignant sur les trottoirs. Très rapidement, il faut dire que les femmes m'ont toujours aidé. Ça, c'est la tradition. Hein. La Fontaine, Racine, Molière, Corneille, s'il n'y avait pas eu les femmes, ils n'existaient pas. Je me compare pas à ces gars-là, hein, doucement. Mais c'est les femmes qui font le tissu. C'est les femmes qui font le courant, le fleuve de l'humanité. C'est elles, tout le temps. Elles sentent les choses. Et bon, elles m'ont amené... Elles m'ont fait vivre, elles m'ont sauvé. La sirène, par exemple, ce qui est rigolo, c'est que dans ce blog, à un moment, personne ne s'en est rendu compte, sauf qu'elle a dû dire, bon, le blaze est un petit peu... C'est la seule fois qu'elle a participé. En fait, elle m'a sauvé la vie à quelques dizaines de minutes. Je mourais entre le 1er et le 2 janvier. Mais pendant ce temps-là, le blog a continué. C'est ça qui est rigolo. Les autres plaisantaient, tout ça. Gna, gna. Puis ensuite de ça, j'ai repris le fil de commentaires, comme si de rien n'était. Je lui ai un petit peu dicté des choses à la sirène. Et puis, 3 semaines après, j'ai eu la main transpercée. Alors, avec une main transpercée, vous pouvez pas trop clavierder, pardon. Et pareil, donc on fait semblant, on n'en parle pas. Et parce que tout en étant blogueur, faut continuer la vie. Et je mène une vie de déplacement, de contraste. Et en même temps, il y a cette chose formidable qui me retient tout le temps, comme si j'étais là avec cette espèce de confrérie géniale que. Qui s'est formé autour du blog. Et c'est vraiment des gens, en général, bon, tout le monde est respectable, mais ceux-là font de leur mieux pour apporter quelque chose de positif et de drôle, d'inventif, pour jouer sur le jeu du jeu de la, vous voyez, pour relancer la conversation, pour, et puis ils le font avec humour. À un moment, qui est cette commentatrice assez extraordinaire, qui utilise beaucoup les photos, s'est fâchée avec moi pour un truc. Elle a dit « je ne reviendrai plus ». Et dans le commentaire où elle disait « je ne reviendrai plus », il y a une photo de ses valises prêtes. C'était génial, c'était sympathique. De toute façon, il y a cette espèce d'esprit. Alors, c'est pas un blog unique, hein, c'est un théâtre. Il faut pas non plus se prendre trop au sérieux, ça n'est qu'un blog, un petit truc parmi des millions de blogs, et puis c'est tout.
Le blaze, on a commencé par parler du blog, si on termine cette émission avec le blog, qu'est-ce qu'il a changé ce blog pour vous?
D'abord, il me pousse, il m'oblige à faire un blog que je voulais faire au départ, avant d'essayer la plateforme via Blogart, qui est un blog de prospective et de polémologie. Mais il a changé beaucoup de choses parce qu'il m'a montré qu'il y avait énormément de gens qui étaient prêts à donner des discours différents, à entendre des discours différents et à apporter des choses. Ils m'ont beaucoup appris, ils continuent à apprendre des choses. Et je suppose qu'après cette émission, d'autres viendront, cesseront d'être des yeux muets et participeront aussi en donnant leur bout de vie, leur part de vérité, comme on dit.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse como un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de ilusión. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. No mira, lamenta mi vida.
en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda mirarse con un nuevo amor. He besado nuestros labios buscando nuevas ciudades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente me miraron en mí. Inolvidablemente me miraron en mí.
C'était l'association de BP, qui est un vieux musicien très connu, très important, qui joue le piano, qui a composé la musique, et de Sigala, un des grands, grands chanteurs gitans, grand chanteur de flamenco, et j'adore ce morceau.
Le Blaze, merci d'être resté avec nous jusqu'à 9h30. C'était une émission en direct. Merci d'avoir été là. On va peut-être redonner l'adresse de votre blog, Le Blaze.
Alors d'abord, l'adresse du blog, c'est http://leblaze.net. Je voudrais remercier Radio Aligre, bien sûr, et surtout vous, parce que c'était assez casse-gueule d'inviter quelqu'un qui vient du virtuel, de l'immatériel, sans savoir. Vous faites vraiment du sans filet. Bravo et merci.
Merci à vous. Et alors, puisqu'on est dans les remerciements, merci à Alexandre Maillet qui est aussi, alors là, il fait du sans filet, Alexandre Maillet, parce que il est tout seul. Et puis, je le préviens pas toujours vraiment à l'avance de ce qu'il va y avoir. Il sait très très bien jongler. Et ça, c'est une grande qualité. Merci à tous. On se retrouve mardi matin et très bon week-end. J'espère qu'il fera beau.